Retour en direct sur le plateau d'affaires suivante. Elle s'appelait Sokaina. Le 10 septembre 2023, cette jeune étudiante de 24 ans révise son droit dans sa chambre lorsqu'elle est mortellement touchée par une balle de Kalachnikov, une victime indirecte du trafic de drogue et une nouvelle illustration de l'ultra-violence chez les jeunes. Le tireur présumé avait 15 ans. Aïssa Rallin.
La mère de Sokaina n'a pas pu rester vivre dans le quartier de Saint-Is. Elle a déménagé après la mort de sa fille. Sokaina, étudiante en droit de 24 ans, travaillait dans sa chambre quand elle a reçu une balle dans la tête.
On ne méritait pas, ma fille ne méritait pas de partir de cette manière.
C'était le 10 septembre 2023, dans le 10e arrondissement de Marseille. Ce soir-là, sur fond de rivalité entre deux bandes de narcotrafiquants, le passager d'un scooter armé d'une Kalachnikov tire en rafale sur les façades de ces immeubles, connus pour être un point de deal. L'une des balles transperce alors le mur de l'appartement de Sokaina. Le passager du scooter, surnommé Juan, est interpellé en février 2024. Le jeune homme, 15 ans au moment des faits, a bonié sa présence sur les lieux du drame ce soir-là. Voici les propos qu'il tient sur une messagerie cryptée, moins d'un mois après la mort de la jeune femme.
Sur Dieu, je ne parle pas pour rien. J'ai pas peur de tirer, moi. C'est rien, au contraire. J'aime ça depuis que je suis tout petit. 20 ans de prison, c'est rien. J'ai juste 16.
Juan a grandi dans l'ultra-violence. Déscolarisé, l'adolescent est membre très actif d'un réseau de trafic de stupéfiants, quasi familial. Son oncle est considéré comme le chef de réseau de Château-Saint-Loup. Sa mère, désignée comme la banquière de ce trafic. Le jeune caïd se photographie régulièrement avec des armes à feu, dont un fusil mitrailleur, comme celui qui a servi à tuer Sokaina. En détention provisoire, Juan poursuit ses activités illégales en revendant des cigarettes, des téléphones et des produits stupéfiants. Il comparaîtra pour meurtre devant le tribunal pour enfants de Marseille.
Dominique, aux côtés de Boris Karlamov, journaliste police-justice BFM TV, qui est toujours en notre compagnie, nous accueillons Maître Marc Sekaldi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau d'affaires suivantes. Vous êtes l'avocat de la famille de Sokaina. Avant de venir au profil de ce tireur présumé, à cette ultra-violence, à ce narcotrafic à Marseille, des nouvelles évidemment de la mère de Sokaina, elle s'est beaucoup exprimée. Quelles sont les dernières nouvelles? Quel est son état d'esprit avec le report de ce procès dont on parlera dans un instant?
Leïla vit depuis 550 jours un calvaire psychologique. Elle est dans une souffrance absolue. Je ne vais pas vous étonner en vous disant qu'elle pleure sa fille chaque jour. Et elle cherche vainement des réponses là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'ultra-violence l'a dépossédée de sa fille. Du sens, il n'y en a pas. Et le soutien médicamenteux qu'elle peut avoir ne répond pas à ce questionnement et surtout à son désir de justice. Dans un temps judiciaire qui est forcément beaucoup plus long que ce qu'elle endure au quotidien, puisqu'elle a une vie aujourd'hui qui est suspendue depuis le 10 septembre 2023.
Maître Sekaldi, on voudrait, Ronald, que vous nous racontiez, et à tous ceux qui nous écoutent, le moment où la famille de Sokaina pousse la porte de cette chambre où elle est en train de travailler. Tout le monde pense qu'elle va répondre comment ça se passe. Qui ouvre la porte et comment ça se passe?
Il n'y a pas pire scène d'effroi que celle que je vais vous décrire, qui est celle de la réalité factuelle de ce dossier. On est un dimanche de septembre, fin de soirée, 10 septembre. Leïla et Sabrina regardent un programme télé. On est proche de 23 heures. Et dans une autre chambre attenante, Sokaina, elle révise son droit, projetant sur une semaine à l'université d'Aix-en-Provence. Et puis d'un coup, il y a une détonation. Et la mère et la petite sœur pensent que c'est peut-être un pétard ou quelque chose qui relève de l'artifice. Et puis elle se précipite dans la chambre de Sokaina et là, elle la trouve gisant dans une mare de sang parce que le projectile dont on connaît la puissance destructrice d'une Kalachnikov a traversé son encéphale. Elle va survivre quelques minutes, peut-être quelques heures, et elle va disparaître dans cette scène d'horreur.
Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Boris, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur au même moment?
Eh bien, à ce moment-là, il y a donc un scooter qui pénètre dans cette cité Saint-Is à Marseille et le passager de ce scooter va littéralement arroser à la Kalachnikov les façades de ce quartier. Il y a plus d'une vingtaine de douilles qui sont retrouvées sur place, des impacts de balles dans plusieurs immeubles, notamment autour de cette pharmacie, puisque la pharmacie, c'est un lieu de rendez-vous pour les nombreux jeunes de ce quartier. Cette pharmacie devant, c'était avant, à l'époque, un point de deal. point de deal, il a été déplacé un peu plus haut dans ce quartier. Et puis donc ce scooter va rapidement prendre la fuite. Il va apparaître sur des images de vidéo surveillance. Et ce n'est que plusieurs mois plus tard, et bien qu'il va y avoir une interpellation, plusieurs interpellations, même dont celle du meurtrier présumé de Sokaina. C'est notamment grâce à la téléphonie, et bien qu'il va être identifié par les policiers. Lui, sa ligne de défense depuis le départ, Juan, âgé de 15 ans, on va rappeler son âge quand même, hein, au moment des faits, c'est je ne suis pas sur place, je n'ai jamais été sur place et je nie toute implication dans ce meurtre. Oui, mais voilà, la téléphonie a parlé, puis il y a des éléments matériels qui ont été identifiés par les enquêteurs. Et puis il y a également, on va dire, des conversations téléphoniques qui ont été interceptées par les enquêteurs entre Juan et sa petite amie Leila H, et puis Juan entre ses proches aussi. Donc Juan, il y a un moment donné, il va se vanter d'avoir tué Sokaina auprès d'un proche, mais il va tout de suite rétro-pédaler, pardon, en expliquant, eh bien, ça va, je rigole, ce n'est pas moi. Sa petite amie également va confirmer qu'il n'était pas présent à son domicile cette nuit-là, alors qu'il avait l'habitude de dormir chez sa compagne. Et puis surtout, on va retrouver la Kalachnikov qui a servi à commettre l'irréparable. Et cette Kalachnikov, elle se trouvait, sauf erreur de ma part, maître au domicile de sa petite amie. Donc il y a énormément d'éléments qui accusent aujourd'hui ce jeune garçon.
Il y a quand même une question, maître, c'est que, à supposer que ce soit lui, bon, il est en tout cas le tireur présumé, quelle est la qualification pénale? Il a tiré sur un mur. Donc, pour son avocat, il y a aussi des éléments dont il peut se servir. Il n'y a pas d'intentionnalité. À aucun moment, c'est arrivé. Mais à aucun moment, il veut tuer Sokaina. C'est quoi la qualification pénale dans le dossier?
Je ne rentrerai pas dans les détails factuels de cette procédure qui n'est pas achevée pour des raisons de secret. Et puis parce que les enjeux de culpabilité, vous avez compris qu'il y a deux lectures de ce dossier. L'une qui considère qu'il y a des charges suffisantes pour lui reprocher les événements sur lesquels je vais revenir en termes de qualification juridique. Et puis les proclamations d'innocence. Les enjeux de culpabilité, ils se jouent pas sur un plateau télé, ils se jouent dans les prétoires.
Mais là, en l'occurrence, il est mis en examen pour quelque chose.
Est mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation, ce qu'on appelle dans le langage courant un assassinat. Et en fait, c'est pas parce qu'on se trompe de cible ou qu'on rate une cible que l'intention homicide doit être écartée. Mais ça, on est déjà dans un débat juridique qui sera celui qui occupera le procès quand il sera fixé.
Et c'est ce que les avocats vont dire, maître.
Ils sont libres à eux de définir une stratégie de défense. Là, pour l'instant, c'est plutôt l'innocence et la non-présence sur les lieux. Après, est-ce qu'il y aura un débordement sur une autre stratégie de défense? Je l'ignore. Et c'est leur liberté la plus totale.
Ce qui peut frapper d'un point de vue extérieur, c'est qu'on est face à deux mondes. On est avec une étudiante en droit qui rédige son droit parce qu'elle a envie de réussir. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est dans l'ultra-violence, qui est mineur, dans l'ultra-violence, qui participe au trafic de drogue, qui est dirigé par son oncle, sa mère est surnommée la banquière. On est dans quelque chose de complètement... Ce sont deux mondes qui parfois se confrontent dramatiquement à Marseille.
C'est ça qui est effrayant, c'est la sociologie de ce dossier. Il y a d'abord une jeune fille, solaire, qui est décrite par tous comme épris de culture, de savoir, qui a envie de s'élever et qui a toujours été d'ailleurs... élevé sur les valeurs du travail, sur les valeurs du mérite. Elle a fait des petits emplois, elle est montée même en responsabilité sur des petits emplois, qui avait le rêve, qui caressait le rêve d'être avocate, qui s'intéressait aux livres, c'est pas si fréquent que ça dans les nouvelles générations, et qui pourtant était d'une condition modeste. La maman est auxiliaire scolaire, le revenu est petit, mais il y a une éducation, il y a un transfert de valeurs. Et à l'opposé, comme un espèce de miroir tragique, on est dans un environnement plutôt toxique, où les stupes dominent le quotidien, et un jeune homme qui décroche très rapidement de sa scolarité, dont on dit que la réflexion est assez limitée, la verbalisation, n'en parlons pas, qui est dans la toute-puissance et qui n'a comme culte que l'ultra-violence et l'argent facile.
Et qui vit dans un monde normal pour lui, c'est son monde normal.
C'est ça qui est effrayant, c'est ce monde parallèle qui est en train de se dessiner avec le narcotrafic. Je vous rappelle que le procureur de la République de Marseille a rappelé que 62% des tentatives d'homicide ou d'homicide concernaient maintenant des suspects de moins de 21 ans. Et là, ce qui est affolant, c'est cette jeunesse. Parce que là, on est au-dessous de 16 ans à quelques jours près. Et donc, il y a un côté sans précédent qui est assez effrayant. Et qui montre deux choses. dans cette zone-là, c'est l'expansion territoriale du narcotrafic partout. Il n'y a plus aucune zone qui est préservée. Et dans cette affaire-là, c'est le chez-soi qui n'est même plus protecteur. Oui, c'est-à-dire que le logement, c'est en principe un sanctuaire. Et ben même le chez-soi, par la puissance destructrice, d'une Kalachnikov, ben on n'est plus à l'abri de perdre la vie. De perdre la vie ou d'être lourdement handicapé. Moi, ça fait des années que je défends des victimes, des familles endeuillées, marquées par des accidents de la vie. Ce profil de victimes innocentes qui sont rattrapées par les conséquences d'un narcotrafiquant, ça fait quelques années qu'elles se multiplient. Je défends pour la même année quelqu'un qui a perdu l'usage de ses jambes parce qu'il s'est retrouvé dans le feu nourri de délinquants qui étaient dans cette lutte de territoire. Donc cette évolution du narcotrafic est un phénomène de société qui est effrayant.
Ce qui est frappant quand on regarde, parce que c'est toujours difficile, les mots sont importants, mais j'ai noté une expression, vous qui avez, Boris, pu consulter les 83 pages de l'ordonnance de mise en accusation, il y a des choses qui sont surréalistes sur le profil, le parcours, l'activité de ce qui est un jeune adolescent, 15 ans, à tel point que même en détention provisoire, il continue, il a même une expression en disant, en continuant cette trafic, je vais faire péter la Roro, je vais faire péter la Rolex. C'est-à-dire qu'on est dans, on parlait de monde parallèle, de monde qui s'oppose, on est dans une réalité virtuelle. Oui, il n'y a plus aucun lien avec la responsabilité d'un être humain normal, quel que soit son âge.
Oui, puisque ce garçon a été placé en détention provisoire le 16 février 2023, et il continue aujourd'hui encore à faire parler de lui alors qu'il est placé en détention provisoire. On va prendre quelques exemples. L'administration pénitentiaire a constaté que Jessica C, qui est donc la maman de Rouen et qui est considérée comme la banquière de ce trafic de stupéfiants dans la cité Château-Saint-Loup de Marseille, eh bien, elle continuait d'effectuer des virements à son fils. Je vais vous citer quelques lignes de cette ordonnance de mise en accusation. La sonorisation de la cellule de Rouen a amené à le soupçonner de poursuivre des activités illégales depuis son lieu d'incarcération. Il se fait parvenir, notamment via sa mère, des téléphones, des produits stupéfiants et des cigarettes qu'il revendait à ses co-détenus, au point de dire à sa mère et à son beau-père, le mois prochain, donc, je fais péter la Roro, comprenez, la Rolex. Il y a eu plusieurs incidents qui ont été relevés par l'administration pénitentiaire. Notamment, le 7 mars 2024, il a été agressé par des co-détenus. Là, on ne sait pas si ça vient de son propre clan qu'il n'a pas supporté en quelque sorte que l'un des leurs s'en prenne à une innocente ou si c'est une bande adverse toujours dans cette stratégie de narcotrafic. Et puis surtout, lors d'une fouille en cellule, les agents pénitentiaires découvrent la présence d'un plan détaillé du point de deal de la Valbarelle à Marseille avec notamment le positionnement et la paix des gérants de ce trafic de stupéfiants. Et par ailleurs, Juan, il a été la cible de plusieurs tentatives d'homicide à l'intérieur même, donc, de ce lieu d'incarcération dans un établissement pénitentiaire de la région PACA.
Question qu'on se posait avec Ronald en préparant l'émission, Condé-sur-Sarthe, qui va être la fameuse prison des 100 narcotrafiquants. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dit qu'on y mettrait des condamnés, mais aussi des prévenus. Lui, c'est un prévenu, Juan, dans une affaire. Est-ce que on pourrait le mettre là-bas, sachant que lui, c'est un mineur? Est-ce qu'on pourrait le mettre à Condé?
Alors là, c'est un vaste chantier. Hein. Les conditions de détention de ces narcotrafiquants qu'on mêlerait à un mineur, ça, il n'y a pas de réponse spontanée comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un rapport à l'interdit qui est lui aussi virtuel. Hein. Vous parliez de monde virtuel, je partage complètement l'expression. Et que finalement, la détention fait partie d'un élément presque banal du parcours. Ce qui ressemble d'ailleurs aux adultes. Je veux dire, quand on a affaire à des délinquants chevronnés, effectivement, la détention fait partie des risques du mode de vie. Et là, ce qui est étonnant, c'est que cette jeunesse et cette précocité du basculement dans la délinquance est vécue même en détention de la même manière, c'est-à-dire comme une composante, une transition. Et moi, encore une fois, je rentrerai pas dans le fond de ce dossier parce que ça n'est pas mon rôle ici. Mais par contre, ce que ça révèle en termes d'enjeux publics et politiques, c'est majeur. Et ce monde parallèle, c'est un chantier vraiment multifactoriel qu'il va falloir lancer. Je rappelle qu'il y a une commission sénatoriale qui, en 2023, avait fait un excellent travail, que des préconisations, y compris sur la détention, avaient été publiées. Et puis l'instabilité politique, peut-être que les députés seront trop occupés à faire des selfies, des buzz et je ne sais quelle agitation, fait que ce chantier qui devrait être prioritaire pour la sécurité de notre population, eh ben il est toujours pas en œuvre, il en est à ses balbutiements.
Projet de loi présenté par Bruno Retailleau lundi sur le narcotrafic, et on suivra évidemment avec Dominique et la rédaction de BFM TV, dont Boris, ce procès, juin ou juillet?
Visiblement oui, puisque la défense a déposé plusieurs recours qui seront notamment examinés demain par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Donc, sauf erreur, Ça paraît compliqué que le procès puisse commencer le 24 mars prochain, quand même.
L'instruction est peut-être pas totalement terminée, puisque la chambre de l'instruction est saisie de différents éléments, de nullité d'actes et de compléments d'information. Donc, si elle ordonne un complément d'information, évidemment, l'échéance du procès sera différée.
Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, Boris, d'avoir été sur le plateau.